Alexandre Dumas, Les Mohicans de Paris, tome 1er, chapitre 1, dans lequel l'auteur lève le rideau sur le théâtre où va se jouer son drame. Si le lecteur veut risquer, avec moi, un pèlerinage vers les jours de ma jeunesse et remonter la moitié du cours de ma vie, c'est-à-dire juste un quart de siècle, nous ferons halte ensemble au commencement de l'an de grâce 1827 et dirons aux générations qui datent de cette époque ce qu'était le Paris physique et moral des dernières années de la Restauration. Commençons par l'aspect physique de la moderne Babylone. De l'est à l'ouest, en passant par le sud, Paris en 1827 était à peu près ce qu'il est en 1854. Le Paris de la rive gauche est naturellement stationnaire et tend plutôt à se dépeupler qu'à se peupler, au contraire de la civilisation qui marche d'Orient en Occident. Paris, cette capitale du monde civilisé, marche du sud au nord, Montrouge envahit Montmartre. Les seuls travaux réels qui aient été faits sur la rive gauche de 1827 à 1854 sont la place et la fontaine Cuvier, la rue Guy Labrosse, la rue de Jussieu, la rue de l'École Polytechnique, la rue de l'Ouest, la rue Bonaparte, l'embarcadère d'Orléans, celui de la barrière du Maine, enfin l'église Sainte-Clotilde qui s'élève sur la place Bellechasse, le palais du Conseil d'État sur le quai d'Orsay et l'hôtel du ministère des Affaires étrangères sur le quai des Invalides. Il en a été bien autrement sur la rive droite, c'est-à-dire dans l'espace compris du pont d'Austerlitz au pont d'Iéna, enlongeant le pied de Montmartre. En 1827, Paris à l'est ne s'étendait en réalité que jusqu'à la Bastille, et encore tout le boulevard Beaumarchais était-il à bâtir. Au nord, que jusqu'à la rue de la Tour d'Auvergne et la rue de la Tour des Dames, et à l'ouest, que jusqu'à l'abattoir du Roule et l'allée des Veuves. Mais du quartier du faubourg Saint-Antoine, qui de la place de la Bastille va jusqu'à la barrière du Trône, du quartier Popincourt, qui du faubourg Saint-Antoine va jusqu'à la rue Ménilmontant, du quartier du Faubourg du Temple qui va de la rue de Ménilmontant au Faubourg Saint-Martin, du quartier de Lafayette qui va du Faubourg Saint-Martin au Faubourg Poissonnière, mais enfin du quartier Turgot, du quartier Trudaine, du quartier Bréda, du quartier Tivoli, du quartier de la Place de l'Europe, du quartier Beaujon, des rues de Milan, de Madrid, Chaptal, Bourseau, de Laval, de Londres, d'Amsterdam, de Constantinople, de Berlin, etc., il n'en était point encore question. Quartier, place, square, rue, la baguette de cette fée qu'on appelle l'industrie les a tous fait jaillir de terre pour servir de cortège à ces princes du commerce qu'on appelle les chemins de fer de Lyon, de Strasbourg, de Bruxelles et du Havre. Dans 50 ans, Paris aura rempli tout l'espace qui reste vide aujourd'hui entre ses faubourgs et ses fortifications. Alors tout ce qui est faubourg sera Paris, et de nouveaux faubourgs s'allongeront à toutes les ouvertures de cette vaste enceinte de murailles. Nous avons vu ce qu'était le Paris physique en 1827, voyons ce qu'était le Paris moral. Charles X régnait depuis 2 ans. Depuis 5 ans, M. de Villèle était président du Conseil. Enfin, depuis 3 ans, M. Delaveau avait succédé à M. Anglès, si gravement compromis dans l'affaire Maubreuil. Le roi Charles X était bon, il avait à la fois le cœur faible et honnête, et laissait croître autour de lui les deux partis qui, en croyant l'affermir, devaient le renverser, le parti ultra et le parti prêtre. M. de Villèle était moins un homme politique qu'un homme de bourse. Il savait déplacer, remuer et tripoter les fonds publics, mais voilà tout. Au reste, personnellement honnête homme, et devant se retirer des finances au bout de 5 ans aussi pauvre qu'il y était entré, et après y avoir manié des milliards. M. Delaveau était sans valeur individuelle, entièrement dévoué, non pas au roi, mais au double parti qui agissait en son nom. Son chef du personnel exigeait des certificats de confession des employés et même des agents. On ne pouvait être reçu mouchard que si l'on ne s'était confessé au moins dans la quinzaine précédant le jour de l'admission. La cour était triste et seulement égayée par la jeunesse, le besoin de distraction et le côté artiste qu'il y avait dans le caractère de Madame la Duchesse de Berry. L'aristocratie était inquiète et divisée. Une portion se rattachait aux traditions semi-libérales de Louis XVIII et prétendait que la tranquillité de l'avenir reposait sur une sage distribution du pouvoir entre les grands corps de l'État. Le roi, la chambre des pairs, la chambre des députés. L'autre portion se jetait violemment en arrière, voulant renouer 1827 à 1788, nier la Révolution, nier Bonaparte, nier Napoléon, et croyait n'avoir pas besoin d'autre soutien que celui auquel s'était appuyé Louis IX, leur ancêtre, et Louis XIV, leur aïeul, c'est-à-dire le roi divin. La bourgeoisie était ce qu'elle est en tout temps, amie de l'ordre, protectrice de la paix. Elle désirait un changement et tremblait que ce changement n'eût lieu. Elle criait contre la garde nationale, contre l'ennui de faire sa faction, et devint furieuse lorsque, en 1828, la garde nationale fut supprimée. En somme, elle suivait le convoi du général Foy, prenait parti pour Grégoire et pour Manuel, souscrivait aux éditions Touquet et achetait par millions les tabatières à la charte. Le peuple était franchement de l'opposition, sans savoir bien nettement s'il était bonapartiste ou républicain. Ce qu'il savait, c'est que les Bourbons étaient rentrés en France à la suite des Anglais, des Autrichiens et des Cosaques. Or, détestant les Anglais, les Autrichiens et les Cosaques, il détestait naturellement les Bourbons et n'attendait que le moment de s'en débarrasser. Toute conspiration nouvelle était saluée de ses acclamations. Pour lui, Didier, Berton, Carré étaient des martyrs, les quatre sergents de La Rochelle, des dieux. Maintenant que, par trois degrés successifs, nous sommes descendus du roi à l'aristocratie, de l'aristocratie à la bourgeoisie et de la bourgeoisie au peuple, descendons un degré encore et nous allons nous trouver dans ces limbes de la société éclairés seulement par les pâles réverbères de la rue de Jérusalem. Supposez que nous nous trouvions transportés dans la soirée du Mardi Gras de 1827. Depuis deux ans, il n'y a plus de mascarade de police. Les voitures, dont la double ligne sillonne les boulevards, toutes chargées de poissardes et malins, qui, chaque fois qu'ils se croisent, s'arrêtent, et pardonnez-moi, je dois me servir du terme courant, et s'engueulent, sont des voitures particulières. Quelques-unes de ces voitures appartiennent de fondation à un excellent jeune homme nommé Labattu, qui, trois ou quatre ans plus tard, ira mourir de la poitrine à Pise, et quoi qu'il fasse tout au monde pour que l'on sache que ces immenses mascarades, que ces sonneurs de cors, que ces hommes à cheval sont bien à lui, les spectateurs s'obstinent à ignorer son nom et à en faire honneur à Lord Seymour. Les cabarets en vogue sont, à la Courtille Desnoyers, le Salon de Flore, la Courtille, la Barrière de Maine, Tonnelier. Les bals fréquentés sont la Chaumière tenue par Lahire, de race en train de disparaître aujourd'hui, y dansent sur le volcan qui doit les engloutir, les étudiants, les grisettes. La Lorette et les Arthurs qui les ont remplacés sont encore inconnus. Gavarni créera pour eux son charmant costume de débardeur, le Prado qui flamboie en face du palais de justice, le Colisée qui bruit derrière le château d'eau, la Porte Saint-Martin et Franconi qui ont seuls, avec l'opéra, le privilège des bals masqués. Nous ne parlons, bien entendu, ici de l'opéra que pour mémoire. À l'opéra, on ne danse pas, on se promène, les femmes en domino, les hommes en habit noir. Dans les autres bals, c'est-à-dire chez Desnoyers, au Salon de Flore, au Sauvage, chez Tonnelier, à la Chaumière, au Prado, au Colisée, à la Porte Saint-Martin, chez Franconi, on ne danse pas non plus, on chahute. Le chahut était une danse ignoble, laquelle était au cancan ce que le brûle-gueule et le tabac de caporal sont aux cigares de la Havane. Au-dessous de tous les lieux que nous venons de nommer et qui descendent du théâtre à la guinguette et de la guinguette au cabaret sont les bouges immondes qu'on appelle les tapis francs. Il y en a sept à Paris. Au Chat Noir, rue de la Vieille Draperie dans la cité, le Lapin Blanc en face du gymnase, au 7 Billard, rue de Bondy, hôtel d'Angleterre, rue Saint-Honoré, en face de la Cinette, chez Paul Niquet, rue au Fer, chez Barat, même rue, enfin chez Bordier, au coin de la rue Aubry-le-Boucher et de la rue Saint-Denis. Deux de ces tapis francs ont des spécialités. Le chat noir réunit particulièrement les voleurs à la carouble et à la fourline. Le lapin blanc, les charrieurs, les sillonneurs et les ventarniers. Oh, qu'on se rassure, nous n'allons pas nous engager dans un dialogue d'argot et faire un livre que l'on ne puisse comprendre qu'à l'aide du dictionnaire infâme, de Bicêtre et de la Conciergerie. Nous nous hâtons au contraire de nous débarrasser pour n'y plus revenir de tous ces termes immondes qui nous répugneraient autant qu'à nos lecteurs. Disons donc rapidement ce que sont les voleurs à la carouble et à la fourline, les charrieurs, les sillonneurs et les ventarniers. Les voleurs à la carouble sont les voleurs avec fausses clés. Les voleurs à la fourline sont les tireurs de bourses, de montres, de mouchoirs. Les charrieurs sont ceux qui entrent chez les changeurs sous prétexte de choisir des pièces à l'effigie de tel roi au millésime de telle année et qui, tout en choisissant les pièces demandées, en fourrent pour 50 francs dans chaque manche. Les sillonneurs sont ceux qui entourent d'un mouchoir ou d'une corde le cou de la personne qu'ils veulent voler et la chargent sur leurs épaules tandis que les complices la barbotent, c'est-à-dire la fouillent. Enfin, les ventarniers sont ceux qui volent la nuit par les fenêtres à l'aide d'une échelle de corde. Les cinq autres tapis francs sont tout simplement les réceptacles de voleurs de toutes les catégories. Pour veiller sur toute cette population de forçats libérés, de filous, de filles, de voleurs de toutes sortes, de bandits de toutes espèces, il n'y a que 6 inspecteurs et un officier de paix par arrondissement. Les sergents de ville ne sont point encore créés et ne le seront qu'en 1828 par M. de Bellem. Ces inspecteurs font leur service en bourgeois. Tout individu arrêté par eux est conduit d'abord à la salle Saint-Martin, c'est-à-dire au dépôt, moyennant 16 sous pour la première nuit et 10 sous pour les autres nuits, on a droit à une chambre séparée. De là, les hommes sont envoyés à la force ou à Bicêtre, les filles aux Madelonnettes, rue des Fontaines, près du Temple, les voleuses à Saint-Lazare, rue du Faubourg-Saint-Denis. On exécute sur la place de Grève. Monsieur de Paris, c'est le titre du bourreau, demeure rue des Marais, numéro 43. La première question que le lecteur se fait à lui-même et qu'il nous ferait si nous n'allions pas au-devant d'elle, c'est celle-ci. Pourquoi la police sait où prendre les voleurs? Pourquoi la police ne les prend-elle pas? La police ne peut arrêter qu'en flagrant délit. La loi sur ce point est positive et les voleurs de toute classe le savent bien. Si la police pouvait arrêter les voleurs autrement que la main dans le sac, comme elle les connaît à peu près tous, un coup d'épervier jeté dans tous les bouges de Paris, et il n'y aurait plus de voleurs, ou si peu du moins que ce ne serait pas la peine de s'en plaindre. Aujourd'hui, aucun de ces tapis francs n'existe plus. Les uns ont disparu dans les démolitions que nécessitent les embellissements de Paris, les autres sont fermés, éteints, morts. Bordier seul a survécu, mais le tapis franc de 1827 est une élégante boutique d'épicerie et l'on vend des fruits secs, des confitures et des liqueurs fines et qui n'a plus rien du bouge immonde où nous allons être forcés de conduire nos lecteurs.